Le 10 mai 68.
Ah, le 10 mai 68.
Tu chantais. Je chantais.
Oui.
T'en souviens?
Je chantais la mutualité. Alors j'avais répété un peu l'après-midi, quoi. Pour la salle, tout ça, je sais pas. Mmh. Et alors après, on était dans un coin, au bistrot, dans un coin. On a vers 6h30, on entendait, 6h, 6h30. Et tout d'un coup, j'ai vu la chose que j'avais jamais vue, qui était extraordinaire. Ça m'a donné immédiatement les larmes aux yeux, bien sûr. Les étudiants sont venus me demander avec eux, à quoi j'ai dit, je peux pas chanter ce soir. Et j'ai vu les étudiants et leurs professeurs, et il y avait, qui circulaient, qui défilaient, et il y avait le drapeau noir et le drapeau rouge. C'est la première fois que je voyais le drapeau noir dans les rues. C'est fantastique, ça. Essayez d'aller avec le drapeau noir dans une rue maintenant, tiens.
C'est un symbole important, le drapeau noir?
Oui, c'est l'anarchie, c'est la couleur de tout remettre en question, en définitive, quoi. Et puis c'est la mort aussi, quoi. C'est mieux que le drapeau tricolore, pour moi. Il est tricolore en Italie, alors je me mouille pas trop, quoi.
Justement, en 68, tu t'en vas en Italie.
69.
69.
Oui. J'étais là-bas parce que ça m'arrangeait de partir de France à ce moment-là. Et je me suis installé là-bas, quoi. Petit à petit. J'ai trouvé un pays que je connais bien, avec des gens que j'aime bien. Et avec des réactions politiques chez les gens qui n'ont rien à voir avec les réactions politiques quand les gens... En France, ce qui peut admettre ce qui est arrivé à Cicciolina, qu'il soit député, quoi, c'est fantastique, ça. Avec tout ça qu'on porte, exagéré, bon... Mais ça, vous verrez ça nulle part ailleurs. Hein. Cicciolina. Ah oui, député, fantastique.
Apporter ma vie sur mon dos, j'ai déjà mis 50 berges sans être
50,
un
non,
seigneur
plus...
salaud. Je ne vaux pas le moindre siège. Marie-maman, voilà ton fils qu'on crucifie sur des affiches. Un doigt de scotch, un jean fils, et tout le reste, je m'en fiche. Ils ont voté, puis après...
Ils chantent, ils vont voter.
Ils vont voter, à la fin, je dis, et Madonna est arrivée.
Tu le fais dessus?
Hein?
Tu peux le faire dessus?
Ah oui. D'accord. T'es malin, toi.
Et vous voudriez que je cherche la moitié d'un cul à beauté. En ces temps, on ne voit pas l'herche. Ils n'ont même plus de cul. Les Français, ils ont voté, puis après. C'est un pays qui me débecte. Pas moyen de se faire anglais ou suisse ou con. Ou bien insectes, partout ils sont confédérés. On les voit à la téléurne avec le général Frappard et leur bulletin dans les burnes et le mépris dans un placard. Ils ont voté, puis après. Dans une France socialiste, je mettrai ces fumiers debout à fumer le scrutin de liste jusqu'au mégot de mon dégoût. Et puis, assis sur une chaise, un ordinateur dans le gosier, il chanterait la Marseillaise avec des cartes perforées.
Et Madonna est arrivée.
On va en écouter beaucoup, même.
Un bureau de tabac, tu crois? Un bureau de tabac, oui.
Une grue sur le vieux port avec les dents longues comme la faim et qui dégrafe tous les marins pour l'âme chagrine et le cœur d'or. C'est à à Marseille que je vais la voir quand le soleil se fout en truide et que le Mistral joue les caïds. C'est à Marseille qu'elle traîne le soir. Elle a des jupes embarquées, tous les chalands qui traînent la nuit et des froufrous qui font tant de bruit qu'on les entend au bout du quai. Il suffit d'y mettre un peu de soie, c'est une putain qu'aime que la braise, et moi je l'appelle ma Marseillaise, c'est bien le moins que je lui dois, reste un peu que je vois, si tu fais le poids. Et si j'en aurais pour mon fric, arrête un peu que je vois, si les étoiles couchent avec toi, et tu me diras, j'ai une grue dans mon pays, avec des dents longues comme le bras, qui dégrafait tous les soldats qu'avait la mort dans leur fusil. C'est à Verdun qu'on peut la voir, quand les souvenirs se foutent en prise, et que le vent d'Est pose sa valise, et que les médailles font le trottoir. Elle a une fois embarqué tous les trains de putain qu'elle rencontre, et il paraît qu'au bout du compte, ça en fait un drôle de paquet. Il suffit d'y mettre un peu de soie, au fond c'est qu'une chanson française, mais qu'on l'appelle la Marseillaise, ça fait bizarre dans ces coins-là, arrête un peu que je vois, si t'as de la voix, si j'en aurais pour mes galons, arrête un peu que je vois, et puis que j'abreuve tous vos sillons, et je vous dirai, ça fait. Je connais une grue qui a pas de principe, les dents longues comme un jour sans pain, qui dégrafait tous les gamins, fumant leur vie dans leur casse-pipe. C'est dans les champs que traîne son cul où il y a des croix, comme des oiseaux, des croix blanches plantées pour la peau des autres, bien entendu. Celle-là, on peut jamais la voir, à moins d'y voir les yeux fermés, et le périscope dans les trous de nez, bien allongé sur le boulevard. Il suffit de leur filer quatre bouts de poil, de faire leur lit dans un peu de glaise, et de leur chanter la Marseillaise, et de leur faire une belle jambe de bois. Arrête un peu tes cuivres et tes tambours, et ramène-moi l'accordéon. Arrête un peu tes cuivres, que je puisse finir ma chanson. Le temps, je baise ma Marseillaise. Pas un sur cent, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés, ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves en huit ans, et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Il y en a pas un sur cent, et pourtant ils existent, la plupart fils de rien, ou bien fils de si peu qu'on ne les voit jamais, que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi, avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser, ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Il y en a pas sur cent, et pourtant ils existent, et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier, ça descend dans la rue des anarchistes. Ils ont un drapeau noir en perles sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie. Des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Canapins sur sang et pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien. Bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout.
Bobino. J'ai de la peine à en parler parce que rien à dire. Ça va reprendre un jour, sûrement.
Une chanson?
Oui. Je la chante bientôt, maintenant. Je vais remettre autour de chant tout ça, tous ces trucs-là.
En fait, tu n'as pas affaire à un public. Et dans ce lieu qui est un music hall, ce n'est pas un public que tu as là. Ce sont des amis. Il y a une chaleur. On n'est pas au music hall. On est ailleurs.
Oui. C'est plus le music hall, d'ailleurs. Le music hall, c'était les premiers numéros avant, les jongleurs et tout ça. Non, c'était l'endroit où les gens venaient pour écouter ce qu'ils aimaient, quoi.
Là, on allait très loin. Bobino, c'est une salle que tu aimais.
Oui, parce que j'aimais aussi le directeur de Bobino, qui s'appelait Vitry. Et le jour où il est mort, j'ai dit que je ne retournerai jamais à Bobino. Et je ne suis pas retourné à Bobino.
Quel rapport un chanteur entretient avec les salles comme ça, les salles où il a pu passer? Bon, il y a des salles qu'on doit rejeter, il y a des salles pour lesquelles on a une tendresse particulière, c'est le cas de celle-là, il y en a d'autres.
Celle-là, oui, mais elle a disparu d'ailleurs maintenant. Il y en a d'autres, certaines salles, certains soirs, qui vibrent particulièrement, quoi. En général, maintenant, pour moi, c'est... Il n'y a pas tellement de problèmes, quoi. Mais je me demande si ça va... Je crois qu'il va y avoir une sorte de retour en arrière, quand même. Oui, on arrive en 88, bientôt 89, n'est-ce pas ? Voilà.
En tout cas, en 1969, il y a un jeune homme qui débute dans la chanson, et nous sommes allés lui parler, Maxime Le Forestier.
Ah oui. Ferré, je pense, compose ou sur piano, ou alors carrément à la table, en écrivant. Je ne sais pas comment il travaille, je ne l'ai jamais vu travailler, mais il va peut-être pouvoir vous répondre.
Oui.
Moi, je vois bien Ferré, avec son grand score d'orchestre sur sa table, s'entendre la musique à l'intérieur de sa tête et la noter directement. Je ne pense pas que Ferré ait besoin de passer par le piano. C'est en cela que Ferré est plus proche des compositeurs classiques ou dits classiques. Et puis il y a une chose qui me frappe chez Ferré, moi, c'est l'abondance de son œuvre. C'est un homme extrêmement généreux et prolixe. J'ai l'impression qu'il écrit jour et nuit, et que quand il écrit pas, il enregistre. Je sais pas ce qu'il en pense lui, mais c'est vraiment le. Quand on voit la pile d'albums que ça fait, l'intégrale de Ferré, c'est énorme. Je sais pas s'il y a un homme en France qui a autant écrit et enregistré que lui. Je parle d'auteur, évidemment. Tino Rossi a enregistré énormément de disques, mais il les a pas écrits. Mmh. Ferré, il a tout sorti de sa tête, et ça fait vraiment une masse considérable. Et on sait pas ça suffisamment. On n'a pas encore, enfin, c'est impossible de publier l'intégrale de Ferré. J'espère, et que ce sera pas possible avant longtemps, parce que j'espère qu'il va encore écrire beaucoup. Puis je crois savoir qu'il y a pas mal d'inédits qui dorment chez lui, et j'aimerais bien jeter un coup d'œil dessus.
Je lui dirai.
Ou un coup d'oreille. Mais c'est ça qui me frappe chez Ferré. C'est cette, on a l'impression qu'il a pas le temps. Qu'il faut qu'il écrive vite, et que plus le temps passe, plus il écrit.
C'est un peu le Picasso de la chanson, hein, c'est un point de vue.
Je ne cherche pas, je trouve.
Mmh. Ouais.
C'est ça. Et puis aussi, avec la dimension du temps, de l'âge, et il produit de plus en plus. Picasso, absolument, était fabuleux à 50, à 60, à 80 berges. C'était...
Absolument. Quel âge a Ferré maintenant ?
71.
Bon anniversaire.
Thank you, Satan.
Picasso.
Ah, Picasso, c'était... Je n'ai pas connu. Hélas, j'aurais bien voulu le connaître.
Mais sa peinture ?
Ah, sa peinture extraordinaire. C'est un... Je crois que... C'est un type qui... Le seul problème qu'il ait eu, je crois, c'est une idée à moi, hein, c'est qu'il pouvait peindre comme tous les peintres. Il pouvait peindre comme Leonardo da Vinci, sûrement. Et qu'il a cherché toute sa vie quelque chose venant vraiment de lui. C'est pour ça qu'il a cherché des choses après. Et un jour, il a pris une route transversale pour peindre ses personnages avec trois nez, deux yeux, deux machins, tout ça.
À mes oiseaux piaillant debout, chinés sous les becs de la nuit, avec leurs crêpes de coutis et leurs fourreaux fleuris. À mes compains du pain rassis, à mes frangins de l'entrebise, à ceux qui gerçaient leurs chemises au givre des pernaux minuit, à l'araignée la toile au vent, à Biftec, baron du homard, et sa technique du caviar qui ressemblait à du hareng, à bec d'azur du pif content qui crachait côté de Sancerre sur les midnight à moitié vert, chez un bistre de Céline, au spécialiste du chkoumoum, qui se sapait de courant d'air et qui prenait pour un steamer la compagnie blondin Enkloun, au pané qui, la langue au pas, en plein hiver mangeait des nèfles, à ceux pour qui deux sous de trèfle, ça valait une cravena. À cela, je laisse la fleur de mon désespoir en aller, maintenant que je suis paré et que je vais chez le coiffeur. Pauvre mec, mon pauvre Pierrot, vois la lune qui te cafarde, cette américaine moucharde qu'ils ont vidée de ton pipeau. Ils t'ont pelé comme un mouton avec un ciseau à surtaxe, progressivement quand tu maxes, tu belles, à tout va la chanson. Tu n'achètes plus que du vent, encore que la nuit venue, il y a ta cavale dans la rue qui hennit en te klaxonnant. Le droit, la loi, la foi et toi, et une éponge de vin sûr. Ton Beaujolais qui fait le mur, et ta pépé qui fait le toit. Et si vraiment Dieu existait, comme le disait Bakounine, ce camarade vitamine, il faudrait s'en débarrasser. Tu traînes ton crocoridé, 50 berges dans les flancs, et tes chiens qui mordent dedans le poterive de l'amitié. Un poète absent des pieds, on lave pas la poésie, ça se défenestre et ça crie aux gens perdus. Des mots fériés, des mots, oui, des mots comme le nouveau monde, des mots venus de l'autre côté de la rive, des mots tranquilles comme mon chien qui dort, des mots chargés des lèvres constellées dans le dictionnaire des constellations de mots. Et c'est le bonnet noir que nous mettrons sur le vocabulaire. Nous ferons un séminaire particulier avec des grammairiens particuliers aussi, et chargé de mettre des perruques aux vieilles bouffiasses littéromanes. Il importe que le mot amour soit rempli de mystère et non de péché, de tabou, de vertu, de carnaval romain, des draps couverts dans le salas et dans l'objet de la policière voyance ou voyeurie. Nous mettrons de longs cheveux aux prêtres de la rue pour leur apprendre à s'appeler dès lors Monsieur l'abbé Reta Ayroir, Monsieur l'abbé Bébé Friquetti, Friqueta. Et nous ferons des prières inversées, et nous lancerons à la tête des gens des mots sans culotte, sans bandes à cul,
sans rien qui puisse jamais remettre en question la vieille, la très vieille et très ancienne et démodée querelle du qu'en diront-ils. Mais du je fais quand même mes cochons, c'était en toute quiétude, sous prétexte qu'on m'a béni et que j'ai signé chez monsieur le maire de mes deux mairies, alors que ses enfants dans les rues sont tout seuls et s'inventent la vraie galaxie de l'amour instantané. Alors que ses enfants dans les rues s'aiment et s'aimeront. Alors que cela est indéniable. Alors que cela sera de toute évidence et de toute éternité. Je parle pour dans 10 siècles et je prends date. On peut me mettre en cabane. On peut me rire au nez. Ça dépend de quel rire. Je provoque à l'amour et à la révolution. Yes, I am an immense provocateur. Je vous l'ai dit, des armes et des mots, c'est pareil. Ça tue pareil. Il faut tuer l'intelligence des mots anciens avec des mots tout relatifs, courbes, comme tu voudras. Il faut mettre Euclide dans une poubelle. Mettez-vous bien dans la courbure. C'est râper vos trucs et manigances, vos démocraties, où il n'est pas question de monter à l'hôtel avec une fille si elle ne vous est pas collée par la jurisprudence. C'est râper, messieurs de la romance. Nous, nous sommes pour un langage auquel vous n'entravez que quick. Nous sommes des chiens. Les chiens, quand ils sont dans la compagnie, ils se dérangent. Et on leur fout la paix. Nous voulons la paix des chiens. Nous sommes des chiens de bonne volonté. Et nous ne sommes pas contre le fait qu'on laisse venir à nous les chiennes, puisqu'elles sont faites pour ça et pour nous. Nous aboyons avec des armes dans la gueule, des armes noires et blanches comme des mots noirs et blancs. Noirs comme la terreur que vous assumerez. Blanc comme la virginité que nous assumons. Nous sommes des chiens. Et les chiens, quand ils sont dans la compagnie, ils se dérangent, ils se décoliérisent et posent leur os comme on pose sa cigarette quand on a quelque chose d'urgent à faire même. Et de préférence, si l'urgence contient l'idée de vous foutre sur la margoulette. Je n'écris pas comme De Gaulle ou comme Perse. Je cause et je gueule comme un chien. Je suis un chien.
Léo, cette musique à l'époque a surpris.
Surpris, oui, oui, sûrement elle a surpris, parce que c'est pas la musique de moi, hein, d'ailleurs. J'avais un jour, j'avais été au Canada, et puis le directeur artistique avec qui je travaillais chez Barclay m'avait dit, tu devrais aller à la fin un jour à New York, c'est comme ça que j'étais un jour à New York, pour rencontrer, pour faire le chien avec Jimi Hendrix. J'ai dit, alors, mais on lui a donné la traduction, ça, enfin, moi je suis allé à New York, je suis allé au studio, et on a attendu, puis il n'est pas venu. Puis quelques temps après, il est mort. Hein. Alors, il y a eu un guitariste, un contrebassiste, un percussionniste, qui après ont eu un grand nom en Amérique, qui sont venus et pour enregistrer cette musique, on leur avait dit ce dont il s'agissait, ils ont enregistré cette musique qu'ils avaient envoyée chez Barclay. C'est comme ça que les Zou, en écoutant cette musique, ont fait ça. Voilà.
Quelles étaient tes affinités avec le groupe Zou, un groupe qui n'était pas spécialement branché sur ce que tu faisais, toi?
Non, mais c'était... Richard Marsan m'avait dit, chez Barclay, est-ce que tu voudrais faire une tournée avec les Zou? Comme ça, il m'a expliqué ce que c'était, parce que ils sont pas connus. Alors, je dis oui. Et je suis parti avec eux, on a fait cette tournée avec les Zou, qui n'était pas toujours facile, hein, parce qu'il y avait des trucs terribles dans les salles. À la salle Vallier à Marseille, qui est une grande salle, je crois qu'on avait arrêté une fille dans l'après-midi qui faisait des trucs, des scandales, je sais pas quoi. Enfin. Et alors, si on arrête une fille devant un théâtre, ou à propos d'un théâtre où je suis, je deviens le flic, moi. dans la tête des gens. C'est vrai. C'est comme ça, quoi. Alors, j'ai chanté avec les Zou pendant 2 heures. Et pendant 2 heures, ça a été terrible. Ça a été le brouhaha total. Et il y avait une espèce de... On pouvait parcourir le théâtre, la scène, là, devant, en bas. Les gens pouvaient marcher. Et pendant tout le temps, il y avait des gens qui marchaient, des types qui marchaient, qui venaient me cracher sur les pantalons. Et j'ai chanté. À savoir pourquoi j'ai chanté, quoi. Parce que j'ai un copain de Marseille qui a trouvé un comme ça, il a tapé sur l'épaule, il venait de cracher, il a tapé sur l'épaule, le type s'est retourné, il a envoyé un gros molard dans la gueule, comme on dit. Hein. Et ça a été souvent comme ça avec les Zou, c'était pas facile. Avec eux, je me suis bien entendu, ils étaient gentils. Et quand on a fini cette tournée, ils se sont séparés. Parce que 2 d'entre eux sont partis, ou 3 d'entre eux sont partis faire autre chose. Toujours de la musique, quoi.
Et dans Le Chien, il y a autre chose qui m'intéresse, dans ta façon d'écrire. C'est-à-dire que j'ai sous les yeux là des textes très longs. L'un s'appelle Testament public, oui. L'autre s'appelle La mémoire et la mer, mais ça n'est pas la chanson, c'est beaucoup plus long.
Oui.
Et en les feuilletant, je trouve des petits morceaux qu'on retrouve sur les disques.
Oui.
Et j'ai l'impression que tu as un rapport culinaire parfois à la composition. Je veux dire, le pain perdu. Tu sais, comme on fait un gâteau avec des oui. restes comme ça, que tu as pris partout, Lamentation devant la porte de Sorbonne, Guesclin. Oui. Donc, tu pourrais me parler de cette façon dont tu traites tes productions pour les découper en morceaux?
C'est pas voulu à l'avance, hein. J'ai besoin de quelque chose, alors je pensais comme ça que j'ai écrit la chanson qui s'appelle Christie aussi, comme ça. Et puis il y a une autre que j'ai écoutée ce jour-ci qui s'appelle Des mots.
Oui.
Des mots, c'est comme ça.
Moi, en fait, tu procèdes par collage, par rapprochement?
Peut-être, oui, parce que là, j'étais en train un jour, j'ai presque terminé La mémoire et la mer, et après je l'ai utilisé dans diverses chansons, quoi.
Il pleure de mon firmament des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme jersey, celui qui vient les soirs de frime te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller. Du sable de la terre. Rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole, qui gueule dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle. Quand il pleure de ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume. Cette bave des chevaux rats au ras des rocs qui se consument. Ô l'ange des plaisirs perdus, aux rumeurs d'une autre habitude, mes désirs dès lors ne sont plus. Chagrin de ma solitude. Et le diable des soirs conquis, avec ses pâleurs de rescousse, c'est le squale des paradis, dans le milieu mouillé de mousse. Revient fille verte des fjords, revient violon des violonnades. Dans le port, fanfare les corps pour le retour des camarades, au parfum rare des salants, dans le poivre feu des gerçures, quand j'allais géométrisant mon âme au creux de ta blessure, dans le désordre de ton cul poissé dans les draps d'aube fine, je voyais un vitrail de plus. Verte, mon spleen. Les coquillages figurants sous les sunlight cassés, liquide joue de la castagnette, tant qu'on dirait l'Espagne livide, dieu des granites. Ayez pitié de leur vocation de parure, quand le couteau vient s'immiscer dans leur castagnette figure. Et je voyais ce qu'on pressent, quand on pressent l'entrevoyure entre les persiennes du sang, et que les globules figurent une mathématique bleue dans cette mer jamais étale, d'où nous remonte peu à peu cette mémoire des étoiles. Cette rumeur qui vient de là, sous l'arc opaque où je m'aveugle, ces mains qui me font du fla-fla, ces mains ruminantes qui meurt. Cette rumeur me suit longtemps, comme un mendiant sous l'anathème, comme l'ombre qui perd son temps à dessiner mon théorème. Et sur mon maquillage roux s'en vient battre comme une porte cette rumeur qui va debout dans la rue aux musiques mortes. C'est fini la mer, c'est fini sur la plage, le sable belle comme des moutons d'infini. Quand la mer bergère m'appelle.
Nous venons d'écouter La mémoire et la mer. Anne-Marie Woodbine, vous qui êtes psychanalyste.
Dans La mémoire et la mer, il y a eu un lapsus une fois sur une cassette où on a appelé La mémoire de la mer. Et je considère que ce lapsus est révélateur. Vous savez bien qu'on fait comme ça chez nous. Et donc, qu'effectivement, il y a beaucoup de thèmes sur le sable, la vague, la mer, le bateau. Et là, c'est aussi une histoire tout à fait intéressante de fantômes. Non seulement de bateaux, mais de mémoire, et donc de fantômes. Et de fantômes avec la solitude, avec le rapport terre-mer, le firmament, les étoiles, et aussi cette étonnante identification que fait Léo Ferré, si vous vous souvenez tous ces textes, aux chiens. Quand il refuse l'humain, l'inhumain de l'humain, pour s'identifier aux chiens. Et c'est, bon, ça reste assez énigmatique. Bon, en même temps, les chiens de mer, c'est la vague, c'est l'infini, c'est le renouvellement. Et là, il y a un rapport tout à fait intéressant et quasi prémonitoire, je dirais, à quelque chose. Donc, encore ces mots qui disent en avant. Et dans ce texte, non seulement il reprend l'archaïque poétique, bon, ces poètes identifiés à des albatros qui nous parlent d'amour, qui nous parlent d'interdit, qui nous parlent de la femme, avec le désir et l'interdit, avec des précisions même qui font intertexte, au sens où on reconnaît bien des textes de Les Paradis que l'on dit d'artifice, ou bien l'intertexte de l'International quand il se met à faire de la politique, ou bien ils marchent dans l'azur, et puis ils arrivent au port, et en même temps, dans ce texte, la mémoire et la mer, c'est vraiment, d'une certaine façon, la mémoire de l'archaïque, la mémoire de la mer, et aller se ressourcer comme ça dans cette singularité, on peut dire, pour d'autres, en avant. Et cette fameuse strophe, quasi, pas la dernière, mais l'avant-dernière, d'abord, où il y a ces « je voyais ce qu'on pressent », quand on pressent l'entrevoyure, avec, bon, il n'hésite pas à répéter des thèmes, c'est les castagnettes répétées comme Franco, l'Espagne, bon, c'est un thème qui lui tient à cœur, mais aussi ça, je voyais ce qu'on pressent, ce qui est tout à fait l'écriture poétique, et l'entrevoyure, c'est-à-dire ce qui ne s'est pas encore élaboré, mais qui peut se sentir, se pressentir, mais j'ai bien dit se sentir, c'est-à-dire passer dans le corps, passer dans la voix, ce qu'il montre dans la voix. Et l'entrevoyure, bon, c'est bien aussi qu'on parle depuis ce qu'on entrevoit, depuis cette blessure. Ça peut être la blessure de la femme, le trou, évidemment, qu'il fait causer. Ça peut être aussi celui qu'on cherche à combler sans fin, parce que ça fait blessure à un homme de n'être pas une femme. Et c'est aussi l'identification à la femme comme sœur. Je crois que c'est dans le premier texte, « Je meurs de ma petite sœur », dans la première strophe de « La mémoire et la mère ». Et ce qui m'intéresse dans cette strophe, c'est aussi que... Bon, je lis une minute. Et je voyais ce qu'on pressent quand on pressent l'entrevoyure entre les persiennes du sang et que les globules figurent une mathématique bleue. Et moi, ça me fait penser à l'émergence du sujet. Si vous voulez, de façon un peu lacanienne, quand on commence à compter de 0 à 1 et qu'à compter, on fait émerger du sujet. Et ce rejet de la mer, pour qu'effectivement on puisse émerger, comme le dit la langue française, de façon si motivée, dirait-on, hein, émerger, c'est-à-dire advenir comme sujet, il faut vivre, il faut sortir de la mer pour vivre, et déjà pour naître comme bébé, et puis pour vivre enfin séparé. Et il va l'écrire, c'est fini, la mer, c'est fini. Mais le dernier vers sera... comme des moutons d'infini quand la mer, bergère, m'appelle. C'est-à-dire qu'on n'en finit jamais avec la mer, si j'ose dire.
Léo, il y a un animal pour lequel tu as une tendresse particulière, c'est le hibou.
Oui. Parce que j'en ai trouvé un sous un sapin dans l'Eure, là-bas. Et je crois que c'était un hibou que la mère avait dû foutre en dehors du nid parce qu'il n'était pas, terminé. Je veux dire qu'il n'était pas complet, quoi. Il ne devait pas savoir voler, quoi. Je l'ai gardé comme ça, avec moi 2 mois. Et c'était fantastique parce que il dormait avec moi. Un jour, j'étais seul chez moi. J'ai dormi à la fin, quoi. Il bougeait presque plus. Il est monté. Étant la nuit, il me réveillait et il venait. Je sentais son bec. C'est terrible, un bec de hibou, hein. Dans les yeux, là, comme ça. Il venait me piquer. Et j'ai compris qu'il piquait quelque chose de mide. Il voulait quelque chose d'humide, quoi. Alors, je lui ai donné de l'eau, un peu, je sais pas. Et je lui ai donné... J'avais acheté des petits beefsteaks, je lui ai coupé en petits morceaux, tout ça. Quand on ne sait pas... Je suis pas hibou, moi, alors je dois pas faire comme si j'étais un hibou, quoi. Voilà. Et j'ai fait une connerie, je crois. Il était malade. Il n'était pas malade, je crois, mais... J'ai vu un vétérinaire qui m'a dit, qu'est-ce que tu donnes à manger? J'ai dit, voilà, je donne à manger, mais des bonnes choses, bien sûr, la bonne viande. Il me dit... C'est pas ça. Il faut donner au hibou. Le hibou mange des souris vivantes. Des animaux vivants.
Des mulots.
Hein?
Des petits mulots.
Oui. Pourquoi? C'est pourquoi? Parce que il faut qu'il mange et puis qu'il rende une boulette. C'est une boulette. où il y a les poils et les petits os. Quoi. Et c'est une raison de vivre pour lui. Il ne peut pas vivre s'il n'a pas cette façon biologique de s'exprimer. Quoi. Et il est venu une nuit. Alors cette nuit où j'étais seul, là, je m'entends dire que j'étais seul parce que ça m'aurait ennuyé qu'il y ait quelqu'un avec moi dans le lit. J'étais le témoin, l'ami et le frère de ce hibou. Il est venu là, sur mes épaules, là, comme ça, là, et il est mort. Le lendemain matin, je l'ai enterré. Et 2 mois après, j'ai été voir ce... Je l'ai enterré dans les Copains de Lanneuil, que je venais de faire. Donc en 56, quoi. Je venais faire les Copains de Lanneuil, écrire les Copains de Lanneuil. Je l'ai empaqueté dans mon manuscrit et je l'ai mis sous terre. 2 mois après, j'ai cherché, je savais exactement où il était, quoi. J'ai gratté pour savoir ce qui restait. C'est ce que j'ai trouvé, une plume. La mer a bouffé le hibou, la terre a bouffé, tu vois, je dis la mer, c'est bizarre. La terre a bouffé le hibou en 2 mois, quoi.
Tu évoquais ce hibou comme ton témoin, comme ton frère. Du hibou à la nuit, il y a le même univers. C'est un univers de la nuit, c'est quelque chose qui est omniprésent dans tes chansons. Oui. Comme si la nuit était un être.
C'est peut-être un être, mais c'est surtout, je crois, c'est la mort dans ce cas-là de noble et de fantastique, quoi. La mort, pour moi, c'est une très jolie femme qui viendra me voir, qui viendra me prendre dans les hauts. Come on, boy. Oui, je me dis ça, c'est parce que la femme, c'est la vie et je crois que c'est la mort aussi.